c'était très plaisant de voir les yeux des enfants qui brillaient lorsqu'ils montaient dans le camion, d'avoir affaire à des personnes qui étaient bénévoles, passionnées de lecture, et qui donnaient tout à leur petite collectivité par notre biais, en fait. Alors d'une part, le conseil départemental me permit d'en assouvir un, c'était celui des pompiers. Et celui-là, depuis tout petit, ben, je voulais conduire un chasse-neige.
Votre histoire, ils racontent leur métier. Le podcast du département de la Loire.
Sillonner les routes et partir à la rencontre. D'enfants, émerveillés par un bus qui amène des histoires et du savoir dans leur village, d'animaux pour s'assurer de leur santé, d'accidentés pour les secourir, et enfin du froid et de la neige pour s'assurer que les usagers pourront, eux aussi, prendre leur route. Sillonner les routes et aussi servir les autres, c'est le sens de la carrière de Thierry Plagiot, agent de maîtrise référent exploitation au département de la Loire. Nous partons aujourd'hui à sa rencontre sur son lieu de travail à Neulise, dans le nord de la Loire. Bonjour Thierry. Nous sommes à Neulise.
Nous sommes à Neulise sur le site d'exploitation, un des sites d'exploitation du nord du département.
Neulise, petit village, commune rurale.
Commune rurale, oui, 1500 habitants environ.
Au nord de la Loire.
Au nord de la Loire.
Et donc, qu'est-ce qui se passe ici sur ce site?
Alors, ben, d'ici partent. Les engins et les agents affectés aux engins pour assurer à peu près 180 km d'entretien sur les routes. Donc c'est l'entretien quotidien, annuel, ainsi que le déneigement en hiver.
Donc c'est une zone bien définie dans le département ?
Oui, tout à fait. C'est une zone où on a des axes assez importants, qui desservent multiples secteurs économiques, et la viabilité 24 heures sur 24 est essentielle.
Donc le site, c'est deux hangars. Combien de véhicules ?
Alors ici, nous avons trois camions affectés, deux tracteurs de fauchage, un chargeur pour le sel, deux fourgons équipés pour la signalisation et tout l'entretien courant, ainsi que trois véhicules de service.
Les activités quotidiennes ?
Elles sont très larges et très multiples. Nous avons des activités qu'on appellera fil rouge, qui sont suivant les saisons. Actuellement, c'est essentiellement le fauchage et le rattrapage des dégâts divers en ce qui concerne l'enrobé. Donc il y a deux équipes qui tournent en permanence. Et au milieu de ça, et ben, souvent les ateliers sont arrêtés selon les disponibilités pour les urgences qui peuvent se produire tout au long de la journée, à savoir les accidents, les nettoyages de route suite à des pertes de transport et ainsi de suite.
Donc là, on est à l'extérieur, entre les deux hangars. On voit le hangar dans lequel il y a une montagne de sel. On voit les monts du Forêt, c'est ça là-bas ?
Oui, donc nous sommes ici bien placés, puisque à votre gauche, vous avez ce qu'on appelle les montagnes du matin, avec la plaine lyonnaise qui démarre derrière la tour Matagrin, que l'on voit au loin. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les montagnes du soir, donc avec l'Auvergne de l'autre côté.
D'accord. On va rentrer dans le bâtiment, dans le hangar principal. On voit des agents qui sont en train de réparer, ou de plutôt peut-être régler, une machine, c'est une faucheuse, c'est ça ?
Alors les deux collègues là sont en train de faire l'entretien quotidien des deux épareuses. de manière à pouvoir aller effectuer leur parcours toute la journée sans problème. Ce sont des engins relativement récents et assez sophistiqués, donc ils méritent une bonne heure d'entretien de manière quotidienne.
Une heure d'entretien tous les jours?
Absolument. Donc ici, nous rentrons dans l'espace qui représente un petit peu le nerf de la guerre. Vous avez le bureau du responsable de secteur, Thierry Ligou, qui est responsable du secteur Neulise et Roanne, qui représente environ entre 350 et 400 km de route. Ensuite, vous avez les bureaux du chef d'exploitation ici, chef d'équipe et des chantiers. Juste à côté, vous avez mon bureau, bureau d'agent de maîtrise référent à l'exploitation. Après, vous avez ce qu'on appelle les pièces de vie, une petite cuisine. Ici, normalement, la salle où les agents prennent leur repas, mais pour cause de Covid, tout est très transformé. Vous avez pu remarquer que nous avons installé tout ça dans le garage pour respecter les mesures de distanciation. On espère que tout cela va rapidement se terminer parce que pour l'instant ça va, le beau temps revient, mais cet hiver c'était pas facile.
Une grande table en fait dans le hangar autour des outils et avec vos prénoms sur la table.
Bien sûr, les prénoms, chacun sa tasse, chacun son verre.
Thierry, depuis quand avez-vous intégré le département de la Loire?
Alors j'ai intégré le département de la Loire en 1985 suite à mon service militaire, à la sortie à ma libération, je cherchais un emploi et j'ai pris connaissance d'une petite annonce dans une petite mairie à Saint-Jules-la-Pendue, pas bien loin d'ici, où le conseil général à l'époque recherchait un chauffeur poids lourd pour conduire un bibliobus. Donc me voilà parti à Saint-Étienne et signé mon premier contrat d'un an en tant que, à l'époque, jeune volontaire. C'est-à-dire que je touchais la moitié du SMIC à l'époque, 2500 francs, pendant un an pour apprendre à mener un bibliobus sur les routes de notre département et distribuer la culture dans les plus petites communes.
Quelle expérience vous en retirez? Conduire un bibliobus, ça doit être très particulier.
Une expérience énorme, hyper enrichissante. Déjà, ça m'a permis de mettre un pied dans notre collectivité. Pendant 17 années, j'ai sillonné les routes du nord du département, amenant la culture par les livres, dans les plus petites communes jusqu'aux plus gros bourgs. Donc c'était très plaisant de voir les yeux des enfants qui brillaient, ouais, lorsqu'ils montaient dans le camion, et d'avoir affaire à des personnes qui étaient bénévoles, passionnées de lecture, et qui donnaient tout à leur petite collectivité par notre biais, en fait.
Et oui, moi, je me rappelle, dans mon village, le bibliobus, c'était merveilleux. C'était quelque chose, les livres qui arrivent dans un bus, dans un car, c'est magique.
Je sais qu'aujourd'hui, cela a bien changé.
Pourquoi ?
L'ère du numérique est passée par là. Alors c'est bien, mais c'est dommage à la fois.
Parce
moi,
que
j'ai l'habitude de dire que avec un livre, on peut s'endormir. En tombant, il ne cassera pas, il ne se débranchera pas, et puis il gardera toute sa mémoire.
Donc bibliobus, première expérience au Conseil Général. Et puis ensuite?
Et puis ensuite, à l'aube des années 2000, j'ai décidé d'aller voir ailleurs. J'estimais que j'avais fait le tour de la question. Et j'ai intégré le laboratoire vétérinaire départemental situé à Montbrison. Changement radical.
Et oui.
Là, on ne parle plus de bénévoles, mais de clients, de docteurs, de prélèvements, de prophylaxie. Je pris un poste de collecteur d'échantillons qui me permet de sillonner une nouvelle fois tout notre département, dans toute sa grandeur cette fois-ci. Beaucoup de kilomètres effectués, un stress permanent, mais une bonne expérience qui me permet de m'évaluer dans un contexte professionnel inconnu et qui me fait avancer dans des domaines jusque-là totalement ignorés. Cela dura 7 ans, avec des hauts, avec des bas, mais toujours avec la satisfaction d'avoir fait le job, comme on dit.
Quelles étaient vos activités dans ce poste?
Alors essentiellement, Je faisais le tour de tous les vétérinaires du département et limitrophes, des abattoirs et de certains collèges, cantines scolaires pour des prélèvements. Parce que le laboratoire vétérinaire Montbrison avait la particularité d'assurer le suivi de la santé animale au sein des éleveurs, mais aussi de l'hygiène qui est normalement préconisée dans toutes les collectivités, que ce soit les EHPAD, les cantines scolaires et autres.
Bibliobus, laboratoire vétérinaire, et ensuite ?
Ensuite,
en quelle année ? On est en quelle année ?
Là, nous sommes en 2007. Je dois quand même signaler aussi qu'en parallèle, notre collectivité me permet d'assurer les fonctions de sapeur-pompier volontaire et que pendant les 25 années que durera mon engagement, je n'ai jamais eu de problème avec mes différentes hiérarchies pour assouvir cette passion à but collectif. En 2006-2007, lors d'une énième décentralisation, les moyens et compétences personnelles de l'exploitation routière furent dédiés aux conseils départementaux. En ayant un peu marre de totaliser nombre de kilomètres quotidiens au sein du laboratoire, je vis l'opportunité de réaliser un autre rêve de gosse. Alors d'une part, le conseil départemental me permit d'en assouvir un, c'était celui des pompiers. Et celui-là, depuis tout petit, je voulais conduire un chasse-neige.
Donc vous avez réalisé deux de vos rêves.
Absolument.
Et pourquoi conduire un chasse-neige ?
Je crois que nombre de garçons de ma génération, voire avant, voire après, c'est quand même des choses qui nous marquent. Donc je vis l'opportunité de réaliser ce rêve. Cela peut paraître idiot, mais bon, lorsque les passerelles furent possibles pour les agents départementaux d'intégrer cette ex-DDE, j'ai postulé pour une place d'agent technique. Et je fus pris suite à un jury.
Donc sur ce site, Analyse.
Sur ce site, Analyse.
D'accord. Et donc là, vous arrivez.
Là, j'arrive et quel choc. Après avoir connu les pas feutrés d'une bibliothèque, les blouses blanches d'un laboratoire, me voici dans un monde dont j'ignorais tout. Certes, les deux ou trois premières années furent difficiles, physiquement surtout. Et puis, chaque métier a ses codes. Il a fallu pour la troisième fois en intégrer de nouveau. Cette période délicate accomplie, je pris mes marques et au fur et à mesure des connaissances apprises sur le terrain, je m'intéresse à ce monde que l'exploitation routière et tout ce qui en découle. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Depuis peu, je suis devenu agent de maîtrise, référent et j'occupe un bureau, comme en 1984. La boucle est bouclée. Encore quelques petites années et je partirai à la retraite, après avoir donné à la collectivité autant qu'elle a pu m'apprendre. Pour moi, le conseil départemental est bien constitué par rapport à ça, parce qu'on peut évoluer sans être nécessairement sorti des grandes écoles, pour peu qu'on tombe sur des chefs de service qui savent voir et reconnaître les compétences de chacun. C'est intéressant de pouvoir se projeter comme ça et de ne pas toujours rester figé dans un emploi qui peut paraître, au bout de quelques années, redondant et ennuyeux.
Vous, c'est ce qui vous intéresse dans votre carrière, c'est d'avoir pu faire des métiers très différents, comme vous nous l'avez expliqué ?
Bien évidemment, parce que l'avantage par rapport aux gens qui travaillent dans le privé, c'est une sorte de parachute. On peut changer d'emploi en étant titulaire. Pour peu qu'on fasse l'affaire, tout se passe bien.
Vous n'avez pas de diplôme ?
Aucun.
Pas le bac ?
Non.
Ni le brevet ?
Non plus. Les seuls diplômes que j'ai, je les ai passés... dans le monde des sapeurs-pompiers volontaires et...
Ça ne t'a pas empêché de vous épanouir au travail ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'ai exercé des fonctions de formateur, que ce soit en réparation de livres, au sein des pompiers, en formation diverses et variées.
Comment vous avez appris alors tous ces différents métiers, ces différentes activités? C'est en pratiquant?
La base de tout, lorsqu'on n'a eu aucune éducation scolaire, la chance énorme que j'ai eue, c'est qu'à l'âge de 20 ans, par le biais de mon métier de conducteur bibliobus, j'ai mis le nez dans les bouquins non-stop pendant 17 ans. Mais non, quand je dis non-stop, c'est non-stop.
Donc de quel âge à quel âge?
De 20 à 37 ans.
Et quel type de livre?
Tout.
Fiction?
Tout.
Document?
Tout.
Essai?
Tout. Tout. À tel point que je m'étais fait des spécialisations. J'étais même responsable de certains secteurs, donc j'avais la chance d'aller très régulièrement au Festival d'Angoulême. Je m'occupais du secteur bande dessinée adulte et jeunesse. Après, j'aidais beaucoup les bibliothécaires de métier en ce qui concernait les romans fiction et anticipation, parce que je m'intéressais énormément à ça. Donc, j'allais aussi faire des achats à la FNAC ou autre pour remplir les rayons et en même temps faire des découvertes littéraires.
Tout vous intéressait, j'ai l'impression. Enfin, tout vous intéresse, vous êtes très curieux, j'ai l'impression.
Oui, en fait, j'ai compris, malheureusement trop tard, mais qu'il fallait s'intéresser à tout pour pouvoir évoluer. Le livre est un outil formidable pour les gens comme moi. Il faut prendre le temps d'ouvrir un bouquin. Tout ce qu'on a raté pour des raisons X ou Y avant l'âge de 20 ans, il est quand même... c'est à notre disposition, on peut le rattraper.
Vous, votre école, c'est les livres, c'est le bibliobus, c'est les...
Exactement, ça a été ça. Ça, plus 25 ans de sapeur-pompier volontaire, où on se retrouve confronté à des situations totalement différentes. On passe du dramatique au rocambolesque. C'est hyper formateur. Pour peu qu'on ait la chance d'avoir des supérieurs bienveillants et intéressants.
Si vous pouvez citer une expérience qui vous a marqué dans votre expérience de sapeur-pompier.
Alors, il y en a des très réjouissantes, mais celle qui m'a le plus marqué, pour éviter de tomber dans les poncifs habituels, j'ai eu la chance de faire des interventions très dures, très techniques, en compagnie de mon fils, que j'avais moi-même formé. Ça, je souhaite, dans n'importe quel métier d'ailleurs, à tout papa... ça lui arrive un jour. C'est une fierté incommensurable d'effectuer une action en compagnie d'un de ses enfants, de son fils, pour le bien collectif et de manière totalement, je dirais, gratuite. C'est vraiment enrichissant.
Alors, j'aimerais bien parler un peu de votre métier. Aujourd'hui, dans votre nouveau poste... il y a quelques temps. Quelles sont vos activités quotidiennes? Vous arrivez le matin à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites dans une journée?
Alors j'ai ma prise de poste à 7h30 et tous les jours je consulte ma boîte mail. Très souvent j'ai des demandes et des actions demandées par mon supérieur. Alors très souvent cela concerne le suivi des entreprises privé qui œuvre pour le conseil départemental. Alors ça peut être le marquage routier, ça peut être des enrobés, des gravillonnages, des changements de glissière. Ça, on dira que c'est un petit peu le fil rouge. Ensuite, je dois aussi m'occuper de temps à autre des arrêtés de circulation, des permissions de voirie. Donc je remplis la demande d'entreprises qui vont effectuer des travaux sur notre réseau. Et puis à côté de ça, y a la mise en place de la viabilité hivernale, commencer à préparer les plannings. C'est une chose très importante pour notre métier.
L'hiver, c'est la période cruciale pour votre activité, c'est ça?
L'hiver, c'est la période cruciale, c'est celle où il faut connaître son secteur sur le bout des doigts, c'est celle où il faut appréhender les connaissances concernant les techniques de salage, de déneigement, concernant les techniques nouvelles par rapport aux engins qui nous sont attribués. C'est un énorme travail.
Et qu'est-ce qui vous guide dans ce travail ? C'est être au service ?
Être au service des autres, assurer une viabilité routière pour pouvoir continuer à faire marcher notre économie. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un département semi-rural. Le secteur nord du département, je dirais, est presque plus rural qu'économique. C'est pour ça que chaque usine ou petite usine installée dans une commune de 1500 habitants, c'est le poumon économique du canton, je dirais. Et il faut que ça puisse circuler dans des conditions le plus normales pour pouvoir permettre aux gens, au bout du compte, d'aller travailler.
Vous êtes fier de faire ce que vous faites ?
Oui, je suis fier de faire. Oui, je suis fier. Oui. Oui.
De rendre service aux autres.
Oui, rendre service, être là dès qu'il y a besoin. Alors bien sûr, dans la mesure de nos propres moyens, dans la mesure de nos connaissances techniques du moment. L'avantage d'être dans notre collectivité, c'est que si on a un manque de connaissances ou un manque de moyens techniques, il y a toujours moyen de se faire aider. Par le centre d'à côté ou par un supérieur, selon une prise de décision qu'il y a à faire. Alors, des fois, on se trompe. Mais quand on se trompe, la fois d'après, on y arrive.
J'aimerais bien qu'on évoque aussi votre rapport au territoire. Vous n'êtes pas de la région, c'est ça ?
Non, pas du tout. Non, je suis quelqu'un du sud de la Drôme, ce qu'on appelle la Drôme provençale. Effectivement, je suis né à Cré dans le 26. Et après un parcours atypique géographique jusqu'à l'âge de 20 ans, en passant par Toulon, Hyères, Clermont-Ferrand, lors d'une de mes permissions, je suis venu visiter un membre de ma famille qui était installé ici, à côté, dans une petite commune à Saint-Jules-la-Pendue. Et ça m'a tellement plu que je ne suis jamais reparti.
Qu'est-ce qui vous a plu ?
Cette façon d'être, que ce soit Rouen, Feur, Montbrison, d'être en ville à la campagne, c'est-à-dire qu'on peut être en ville, on sort de la ville, on est à la campagne. Et puis cet esprit quand même assez rural qui reste et qui perdure, et j'espère qu'il restera longtemps, car c'est un esprit qui véhicule des valeurs qui sont là pour nous aider à nous construire au quotidien.
Lesquelles ?
Les valeurs de travail, de respect, des autres, de respect de la nature, de suivre les saisons, de ne pas toujours courir. Les choses qui font qu'on a quand même une qualité, un cadre de vie, à mon sens, assez intéressant, surtout lorsqu'après on fonde une famille, qu'on a des enfants. Je dis pas que ceux qui habitent dans les grandes villes, c'est pas bien pour eux, mais je pense que on a quand même une chance d'habiter dans ces milieux-là.
On le voit ici, puisqu'on est dans une pièce qui donne avec une grande fenêtre sur la nature. C'est les monts du Lyonnais, ça, c'est ça ?
Absolument.
Vous l'avez appelé comment tout à l'heure ?
Les montagnes du matin.
Les montagnes du matin.
Le soleil se lève là-bas, juste derrière. Nous traverse toute la journée et vient de l'autre côté, plein ouest.
Et on entend les oiseaux et le soleil inonde la pièce. Vous avez un endroit préféré dans le département ?
Par le biais de mes différents métiers, je l'ai tellement parcouru que il y a tellement d'endroits intéressant tant par leur histoire que par leur par ce qu'ils dégagent en termes de vue. Que effectivement, je serais tenté de dire que j'adore mon petit village Saint-Jules-la-Pendue, mais il y a tellement de choses belles à voir chez nous.
Vous avez un ami qui veut s'installer dans la Loire, qu'est-ce que vous lui conseillez ?
Je lui conseille de choisir un petit village, n'importe lequel, car ils sont tous attrayants, rien que pour le cadre de vie et la tranquillité que l'on peut trouver et que l'on a souvent besoin en sortant du travail. C'est essentiel. On se ressource dès qu'on rentre. On est dans la verdure. Les bruits s'arrêtent lorsque les heures normales de travail cessent. On a encore la chance, malgré un réseau routier important, d'avoir des périodes de total silence. Et ça devient tellement rare que si l'endroit où l'on habite nous le permet, eh ben, il faut vraiment en profiter.
C'est vrai. Merci Thierry d'avoir partagé avec nous, avec les auditeurs, votre métier, votre parcours et tout ce qui vous a construit. Métier du social, profil administratif ou technique, le département de la Loire recrute chaque année plus de 200 nouveaux collaborateurs. Avec l'ambition de faire progresser chaque collaborateur dans ses compétences et son parcours, le département de la Loire porte fièrement les valeurs de solidarité, du sens de l'accueil et du service propre à son territoire et à sa vocation. Vous pouvez retrouver les offres d'emploi, d'autres podcasts ainsi que des vidéos métiers sur le site recrutement du département de la Loire, www.loire.fr/onrecrute. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est sans doute que vous l'avez apprécié, alors pour en faire profiter à d'autres personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à le partager maintenant à deux personnes autour de vous.